à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kénéen rencontre Bernard Kouchner. Ce soir, le danger.
Bernard Kouchner, aventurier de l'humanitaire, on l'a vu ensemble hier, aventurier de l'humanitaire mais aussi du droit d'ingérence et de la politique. On vous surnomme à l'occasion le docteur, la locomotive, Surcouf et bien sûr le French Doctor. On a parlé d'aventure ensemble hier, j'aimerais qu'on parle de son corollaire aujourd'hui, du danger. Et parce qu'il y a du danger, il faut se préparer. Et vous avez été préparé très tôt, paraît-il, par votre père, à la bagarre de rue.
Le risque est mitoyen de la peur. Et la peur, mitoyenne du risque. J'ai appris, c'est long, c'est pas facile, à ne pas avoir peur. Ou à ne plus avoir peur. Donc le risque, si vous voulez déployer, disons, les ressources, sans vouloir qualifier pour positif ou en négatif la démarche humanitaire, il ne faut pas avoir peur d'aller dans des pays qui ne ressemblent pas aux vôtres. C'est la première des choses. Je veux dire. Déjà, le dépaysement, la langue, les coutumes, les relations entre les hommes et les femmes, entre les familles, entre les dirigeants et entre les dirigés, tout ça est un risque. La vie est un risque, d'ailleurs. Vous savez, ça finit mal. Hein. Donc, moi, j'ai été élevé à Montreuil-sous-Bois. C'est une banlieue, comme on dit, ouvrière, vivante. À l'époque, c'était pas très facile d'être le fils du toubib. Mon père était médecin à Montreuil-sous-Bois. Et oui, j'étais en but à quelques difficultés, aussi bien à l'école que dans la rue, etc. Et il m'a initié à ce combat contre la peur. Et en particulier, ça s'est traduit par, avec lui d'ailleurs, avec mon père qui était un homme merveilleux. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être dans une famille où malgré les disputes et où les algarades, au contraire, grâce à ça, je crois, tout le monde s'aimait beaucoup. Et donc, il m'a initié à la lutte gréco-romaine et à la lutte libre. J'ai même été champion de Paris, mon gars. Et j'allais donc à Bagnolet, ce qui était d'ailleurs aussi une espèce d'aventure, vous savez, quand on croit que c'est assez simple de vivre les aventures en France. Passer le périphérique, vous allez voir. Donc, j'ai appris ce combat, à ne pas avoir peur des gens parce qu'ils sont plus gros ou plus grands, et à essayer de se défendre tout seul. Ça m'a beaucoup servi, beaucoup. Et je lui en suis très reconnaissant. Il venait avec moi d'ailleurs, très souvent, il y a le toubib qui... Alors, il faut voir ce que c'est que les... La lutte gréco-romaine, c'est un truc où on transpire, hein, où on se frotte à des grands tapis, où vous êtes là dans des combats où on respecte l'adversaire. On respecte l'adversaire, c'est assez rare, surtout dans le sport qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire tarifé, le moins qu'on puisse dire. Et donc, qu'un médecin, qui était un personnage quand même à cette époque, vienne lutter sur les... C'est dans une espèce de sous-sol à Bagnolet, où il y avait une fois par semaine, plus les combats qu'on faisait avec les autres clubs. Il y avait la gymnastique et des rencontres, et on apprenait à se battre, voilà. À se battre de façon loyale, mais durement. Hein.
Alors, il y a les gestes qui sauvent, qui sont ceux du médecin. Vous gardez en tête un geste en particulier, une technique de combat que vous pourriez délivrer aux auditrices, aux auditeurs, en quête de...
D'abord, ne pas avoir peur.
De sécurité.
Oui. D'abord, ne pas avoir peur et d'être calme. Et d'avoir confiance en soi. C'est ça, la technique. Vous savez, c'est pas parce qu'on fait des grands bruits et des grands moulinets qu'on est très efficace. C'est ça, la première technique, c'est ne pas avoir peur des coups. Donc, si vous voulez vous faire du mal, allez-y.
Quelques années plus tard, alors que vous étiez déjà lancé dans la lutte politique, Bernard Kouchner. Pendant la guerre d'Algérie, vous êtes un jeune militant. Et alors que l'OAS perpètre des attentats dans Paris, puisqu'on parle du risque ensemble aujourd'hui et des dangers que vous avez encourus, on vous retrouve, dit-on, garde du corps de Simone de Beauvoir.
Oui, j'ai eu l'honneur et le plaisir de... On gardait, nous gardions, comité antifasciste. Vous savez, la guerre d'Algérie, c'est pas seulement ça. D'abord, la guerre d'Algérie... Enfin, bon, donc je gardais... Il m'est arrivé de garder des établissements, certains, comment dirais-je, très attirants, comme le domicile de Simone de Beauvoir, moins attirants comme des gens anonymes et comme, je sais pas quoi, la librairie de François Maspero, enfin des choses... Bon, nous essayons d'être utiles, l'OAS frappait fort. Mais c'était la guerre d'Algérie, c'est ça qui m'a politiquement remué. Avant même la moindre idée du socialisme ou de ses aléas et de ses avantages. Donc c'est l'Algérie qui nous a révélés à nous-mêmes. Vous comprenez, quand on a eu le souvenir des atrocités nazies et qu'on apprend que son armée torture en Algérie, quand on est un jeune homme avec le sang un peu vif et une mémoire culturelle précise, on ne comprend plus rien. On est vraiment très perdu. Nous avons torturé en Algérie, tout le monde l'a reconnu, et surtout la bataille d'Alger, et des gens que nous admirions. Alors, ça vous donne sur la politique tout un regard qu'il a aussi à avoir avec la chose médicale. On va pas gloser trop sur la torture que beaucoup de gens ont employée dans ces batailles. Mais, encore une fois, ce qu'on fait en Syrie, ou ce qu'on ne fait pas en Syrie, ça vous donne à penser sur la succession de générations et des indignations et de l'aventure, comme vous dites. L'aventure nécessaire. Écoutez, pour moi, c'était simple. Toutes les tortures se valaient. Et tous les assassinats, en particulier les assassinats de masse, méritaient qu'on s'indigne et qu'on se révolte et qu'on se lève contre. Donc c'est une morale assez simplette, qui ne ressemble en rien et qui ne rassemble en rien et qui ne revendique certainement pas ceux qui maintenant sont des terroristes, et en particulier le terrorisme islamique. Sûrement pas. Au contraire. C'est pour qu'il n'y ait pas de terrorisme qu'on se battait pour la paix. Bon, on peut pas comparer la violence gratuite d'ailleurs. Je me souviens très bien que quand il y a eu des attentats à Alger, l'attentat du Sélec, l'attentat dans les cinémas, etc., moi j'étais absolument contre. C'est pas parce que le FLN le faisait et qu'ils avaient l'indépendance en perspective que je trouvais qu'il fallait tuer la foule. Mettre des bombes de façon indiscriminée dans la foule, jamais, 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 jamais. Si vous en arrivez à faire ça, vous entachez gravement votre combat. Bon,
alors,
ça a été fait des deux côtés encore une fois. Et nous avons perdu la France.
Bernard Kouchner.
Et on n'allait pas tuer tout le monde, on en a tué déjà beaucoup. Et si on ne comprend pas, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des activités politiques internationales, et les gens ne comprenaient pas que la violence... Vous savez, le nombre des morts algériens... Et chiffré différemment, comme d'habitude, mais enfin, 600 000, 800 000. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si c'est exagéré, j'en sais rien. On compte jamais, d'ailleurs, de bonne façon. Ce n'est pas possible de compter un tel nombre d'assassinés de bonne façon, de tués. De l'autre côté aussi, il y a eu des morts, bien entendu. Et on ne compare pas les tonnes de morts d'un côté ou de l'autre, mais quand même, un peu. Donc cette guerre d'Algérie que nous avons menée contre pratiquement le monde entier nous condamnait. C'était évident qu'ils allaient devenir indépendants. Je voyais pas pourquoi, sous prétexte qu'il y avait beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que les pieds noirs ont souffert. Et c'est vrai que la fuite m'a révolté, la façon dont ils sont partis. Je connais des gens qui sont partis avec le cercueil de leur père, des amis proches. Mais enfin, il y avait le Maroc qui s'en était sorti, la Tunisie qui s'en sortait. Je veux dire, il n'y avait pas de raison que l'Algérie s'en sorte pas. C'était assez simple à comprendre. Je me souviens que ce sont les socialistes qui ont lancé le plus la guerre. Guy Mollet, François Mitterrand, etc. Alors, écoutez, votre émission est trop belle pour qu'on fasse le, comment dirais-je, le béaba des meurtriers et des meurtrissures. Mais enfin, bon, les erreurs ont été très importantes, partout, et politiques. Alors après, on a essayé de se rattraper, on a essayé d'apporter la paix civile. C'était pas possible.
Alors, il y a ce C'était moment trop grave. Fondateur et grave de la guerre d'Algérie dans votre engagement, Bernard Kouchner, mais vous n'étiez pas à Alger pendant cette bataille d'Alger. Vous étiez en revanche au Biafra, cette région en sécession du Nigeria à partir de la fin de l'année 1968. Et quand vous arrivez au Biafra, le danger est là, que ce soit les bombes et aussi des médecins qui sont assassinés alors que vous êtes comme eux sur le terrain et vous décidez de rester. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'a été l'expérience, votre baptême du feu de ce qu'est le danger quand on est médecin humanitaire?
C'est une pièce de théâtre, c'est un film inouï. D'ailleurs, je me demande pourquoi on n'a pas fait de film. Je raconterai le Rwanda de la même façon. Nous avions un contrat avec la Croix-Rouge internationale disant qu'on ne révélerait pas, et signant ce qui a été mon parjure, qu'on ne révélerait pas ce qui se passait, ce qu'on voyait, évoquant pour ça le serment d'Hippocrate qui n'avait rien à voir, parce que le serment d'Hippocrate, vous dites pas ce que votre malade et vous-même vous mène, et votre malade, c'est d'ailleurs très dangereux de dire mon malade. Bon, non. Mais c'est pas pareil quand il y a des crimes de masse, c'est pas pareil quand on bombarde les hôpitaux, c'est pas pareil. Il n'y a pas de serment d'Hippocrate là, c'était faussement évoqué pour ça. Donc, à un moment donné, dans cette horrible guerre du Biafra, où nous avons appris à recevoir 80 ou 100 blessés le soir, dans des conditions épouvantables, où on faisait ce qu'on pouvait, il y avait ces enfants qui mouraient de famine. Il y avait un petit pont à côté de l'hôpital qui s'appelait Awo Mama Hospital, ou une petite rivière où, quand on avait le temps, mais on n'avait jamais le temps, on allait... On est allé peut-être 5 ou 6 fois se baigner. Tout près, c'était 4 kilomètres. Mais à travers l'arbre, c'était encore... Le long de la route, c'était 4 kilomètres, même pas. Mais dans la brousse, c'était moins que ça. On entendait même les coups de pistolet. Et donc, l'armée avançait. Elle était commandée par un fameux bourreau qui s'appelait Adekunle, qu'on appelait le Scorpion Noir. C'était le commandant, colonel Adekunle. Alors, à ce moment-là, avec ces médecins du Biafra, on a reçu l'ordre de la Croix-Rouge de rester sur place. D'ailleurs, nous ne serions pas partis. C'est les malades qui partaient, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être tués. Parce qu'à l'hôpital d'Oweri, avant, ils avaient tous été tués, malades et médecins. Donc c'est eux qu'on essayait de faire partir dans la brousse, même les opérés de la veille, avec leurs perfusions qui servaient à rien, enfin bon. Alors... Les médecins du Biafra se sont réunis sous la direction d'un formidable médecin italien qui s'appelait Carlotti et qui avait épousé une biafraise. Nous avons décidé, politique qui surgit, de rester à condition, là j'ai joué un petit rôle, que l'opinion publique internationale le sache. Donc que nous voulions, c'était faire une conférence de presse, pas au Biafra, on ne pouvait pas y aller, mais... dans l'île de Santa Isabel, où la Croix-Rouge avait sa base, et dire « Nous voulons attirer votre attention sur cet hôpital-là, à Womama, parce que là, nous allons rester pour défendre nos malades, ce que d'ailleurs les règles médicales prescrivent, y compris pendant la guerre. » Alors, bon, j'ai été désigné pour faire cette représentation. Je suis allé à Santa Isabel, et là-bas, j'ai rencontré la hiérarchie de la Croix-Rouge qui m'a dit « Ah, mon petit gars, oui, bien sûr, prenant pour un fou, comme souvent on m'a pris. » ou pour un espèce d'aventurier de 4 sous. On va faire la conférence de presse, mais ce n'est pas la peine que vous alliez à Genève. Bien sûr, ce n'était pas la peine. Donc il y a eu la conférence de presse, et puis moi je suis revenu au Biafra, et 2 jours après, pas dans notre hôpital, par chance pour nous, mais par malchance pour eux, dans un autre hôpital. Il y avait les gens de la Croix-Rouge qui étaient des Yougoslaves avec des infirmières britanniques, et ils ont tous été tués, y compris tous les malades qui restaient. Alors, ça veut dire ça. Ça veut dire que nous avions raison, qu'il y a quelques règles morales, humanitaires si on veut, et politiques à appliquer, si on veut être utile. Et depuis, bien entendu, plusieurs fois, on a vu que à parler protège, que le secret et le mutisme condamnent, au contraire, les déshérités, les malheureux, ceux qui sont opprimés. Donc c'était une démonstration malheureusement triste pour nos amis. Il faut pas de mutisme, ça ne veut pas dire qu'on parle à tort et à travers, ça ne veut pas dire qu'on donne le nom de ses blessés, ça ne veut pas dire qu'on va clamer un faux héroïsme, pas du tout. Ça veut dire que le malheur des autres nous appartient et il appartient à tous. Que ce qui s'est passé en Syrie, c'est une honte pour le monde entier. Et ce qui continue de s'y passer maintenant, avec cette espèce de distribution des bombes, et ils se sont même arrangés, les avions multiples de la coalition internationale et ceux de M. Poutine, pour ne pas se rencontrer dans un espace absolument réduit. C'est formidable, on arrive à tout faire, sauf à protéger les gens. Et moi, j'y étais à la bataille de Raqqa, il n'y a pas longtemps. Hein ? Et les femmes kurdes, je vous parlerai des Kurdes, si vous permettez. De toute façon, je vous en parlerai. Alors, vous pouvez poser la question que vous voulez. L'extraordinaire courage de ces femmes, en première ligne, et des combattants kurdes. Tout le monde les a regardés, maintenant on les trahit. C'est la règle. Et d'ailleurs, vous allez voir avec ce qui se passe entre cette attaque turque contre les Kurdes. On va les trahir une fois de plus.
Nous allons parler du Kurdistan, des Kurdes, ensemble. Merci. Au long de nos entretiens, Bernard Kouchner. Mais puisque vous parliez de François Mitterrand, qui était pour la guerre en Algérie, au milieu des années 50. J'aimerais qu'on parle de Mitterrand atterrissant à Sarajevo en 1992.
Oh, 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 quel raccourci!
En votre présence, parce que bien sûr, il y a
eu... En ma compagnie, vous voulez dire?
Est-ce qu'il y avait quelques dangers, quels souvenirs vous gardez de ce moment qui, évidemment, était peut-être davantage un moment de décision politique qu'un moment de prise de risque?
Je vous aime beaucoup,
François,
mais on
ne
peut pas parler comme ça. On fait des parachutages un peu risqués, là. Dans cette affaire, c'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'avais dit plusieurs fois, j'étais allé très souvent à Sarajevo, et je voulais que... Je pensais qu'il n'y avait pas d'issue militaire dans cette guerre de Bosnie. Et il y avait un homme qui était président de Bosnie, qui s'appelait Izetbegovic, et qui était, de mon point de vue, un grand président. Si je vous racontais sa fin, on aurait un mois d'émission.
Bon, donc j'ai été appelé à un conseil européen à Lisbonne. J'ai été appelé par le Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, qui m'a dit « Bernard, viens tout de suite, le président... » Non, moi, j'étais d'ailleurs secrétaire d'État au Quai d'Orsay, donc viens, j'ai dit bon, je venais avec mon petit costard de ministre et ma cravate, et il m'a dit tu vas à l'hôtel et je viens te voir. Et il m'a mis à l'hôtel et il m'a dit faut que tu m'emmènes à Sarajevo, prépare ça. J'ai dit écoute Roland, moi que tu meurs, je veux bien, c'est ton choix, mais enfin ça se fait pas comme ça. Il y a d'abord l'avion. Hein. Il peut pas se poser parce que l'aéroport est fermé, blablabla, faut que je téléphone, mais fais ce que tu vas, je reviens te voir à 3h. Bon. Et je me souviens que le général s'appelait McDonald, il m'a dit, je t'emmerde, l'aéroport est fermé. J'ai dit, tu l'ouvres, parce que nous, on vient, bon, enfin, c'était assez risqué, quand même. Et puis, quand Roland Dumas est revenu, il m'a dit, t'as préparé, Bernard? J'ai dit, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Et il m'a dit, c'est pas moi qui y vais, c'est François Mitterrand. Alors là, moi, la responsabilité vis-à-vis de Roland, elle était grande, mais enfin bon, ça va, il prenait ses responsabilités, mais le président de la République française, c'est autre chose. Hein. Et donc, il m'a dit, personne ne le sait, tu te tais, il n'y a que moi qui le sais, évidemment, François Mitterrand, tu viens à l'aéroport, il y a un avion pour vous, et voilà. Et nous n'avons pas pu nous d'abord, ça tirait terriblement, et McDonald, il y avait des camions sur la piste. Alors il avait retiré les camions, mais il y avait des trous, enfin, et surtout, on est arrivé à la nuit, on pouvait pas se poser la nuit, et François Mitterrand, qui devait atterrir, les sommets sont toujours retardés, etc., on nous a dit c'était impossible parce que le pilote ne voulait pas. Donc nous avons atterri à Split. François Mitterrand n'avait pas beaucoup de rechange, comme on dit. Moi, j'en avais pas du tout. Et tout le monde était effrayé et nous avons disparu dans la nuit de Split. François Mitterrand était très content, ça changeait beaucoup de son ordinaire. François Mitterrand n'est pas un homme peureux, hein. Et il était très content. Il m'a dit, j'aime bien voyager avec vous. Enfin, je ris, mais j'aimais beaucoup cet homme, hein. Pas toujours, mais... Et là, il y avait une alerte mondiale pour que l'avion du président de la République française, c'était le premier président qui, dans ce conflit, prenait une part active et physique, et arrive à l'aéroport. Et à l'aéroport, il y avait Mladic et Karadžić. Bon, Mitterrand n'a pas voulu les recevoir, qu'on les voit tout de suite. Ils avaient déjà une sérieuse réputation. Hein. Et il a dit qu'on allait voir Izetbegovic et qu'on les verrait au retour à l'aéroport, peut-être. Je vous passe les détails du casque et du gilet pare-balles. Mais bon, finalement, le président de la République est venu à Sarajevo. Nous avons vu Izetbegovic. Et on a eu une conférence de presse. Et puis nous sommes repartis. Et à l'aéroport, au retour, parce qu'il y avait eu, l'avion avait pris des balles, il a fallu prendre un hélicoptère, etc. Notre avion avait été touché, bon... Il a vu Izetbegovic, l'avait pas accompagné à l'aéroport, c'est très dangereux, hein, parce qu'il y avait la sniper allée qui était bon. Et quand il est arrivé, Mladic et Karadžić l'attendaient, et on s'est enfermé avec eux dans une petite dépendance de l'aéroport, où là ils ont raconté des trucs. J'ai vu pour la première fois François Mitterrand en colère. Ils leur ont dit, oui, vous venez là, mais vous n'allez pas de l'autre côté. Et là, le président s'est mis en colère. Et il a dit, vous mentez, je ne veux pas vous me racontiez d'histoire, je ne suis pas venu pour entendre de vos sornettes, je sais que c'est vous qui tirez. Costaud, hein. Bien. Il a exprimé son opinion et sur la guerre et sur le conflit politique que ça sous-tendait. Et puis nous avons pris l'hélicoptère. Oui, il m'a répété, j'aime bien voyager avec vous. Ça me change.
On a pris votre goût et votre sens du risque aujourd'hui à deux extrémités quasiment. D'un côté, votre expérience de militant pendant la guerre d'Algérie et puis au Biafra. Et cette expérience avec François Mitterrand en 1992... à Sarajevo, mais vous avez pu dire que tout au long de votre vie, avec tous ces dangers que vous avez côtoyés, Bernard Kouchner, cette aide humanitaire, vous l'avez faite d'abord pour vous-même.
J'ai dit ça parce que ce genre d'aventure se fait toujours aux dépens de soi-même. Soi-même, faut vous forcer.
Oui, mais vous dites que je me suis rendu au Biafra parce que je suis trop jeune pour Guernica, Auschwitz,
oui.
Oradour, oui. Et Sétif.
Oui.
Chacun
oui.
De ces exemples
oui.
Est l'exemple où... Les oui. Hommes et les femmes qui étaient engagés sont morts.
Eh bien, ils sont morts de l'indifférence des autres en particulier. Ils sont morts parce qu'on n'a pas bombardé le chemin de fer qui allait à Auschwitz. Ils sont morts par d'indifférence d'abord. Et donc, je disais, c'est toujours aux dépens de soi-même parce que on apprend beaucoup. On a peur ou on n'a plus peur. Mais on est remué par la condition... Et la souffrance et la mort des autres. Et je pense que l'ABC de l'engagement politique, et surtout de l'engagement politico-humanitaire, puisque vous pensez, je l'espère, que les choses sont toujours mêlées, c'est la politique qui fait les morts, c'est pas l'humanitaire. L'humanitaire pense les plaies. Au maximum, si elle réussit, c'est déjà bien. Mais quelque part, n'est-ce pas, c'est le mutisme. Et la Croix-Rouge internationale, mes amis, on visitait Theresienstadt, sans voir que c'était un camp d'extermination, et ben tous les gens qui chantaient et tous les membres de l'orchestre qui ont joué pour eux, ils sont tous morts à Auschwitz. Ils le savaient et ils n'ont pas parlé. Et ben, je pense que c'était une erreur historique. Et c'était surtout une erreur morale terrible, car ils ont dit, c'est la justification, si on parle, nous ne pourrons pas visiter, nous, la Croix-Rouge internationale, nous ne pourrons pas visiter les autres prisonniers. Les autres prisonniers n'étaient pas condamnés à mort d'avance. C'étaient des prisonniers, dans un camp horrible sûrement, mais pas un camp d'extermination. Et à ce moment-là, on le savait. Et d'ailleurs, les principaux dirigeants du monde le savaient. Et il y a beaucoup de preuves à ça. C'est pas la peine d'y revenir. Enfin, ça, vous savez, quand on a voulu échanger les juifs contre les camions, il y a des gens qui ont dit « Pourquoi des juifs ?» Il y en a d'autres qui ont dit « Pourquoi des camions ?» C'est pas pareil. Bon, enfin, voilà, c'était pour exprimer, c'est toujours aux dépens de soi-même qu'on apprend la vérité, c'est toujours aux dépens de soi-même qu'on se dit qu'on aurait pu faire quelque chose et qu'on ne l'a pas fait. Et le plus grand des risques, c'est de n'en pas prendre.
Merci.
Retrouvez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bernard Kouchner. À voix nue. Réalisation Doria Zénine. Prise de son Jérémy Tuile. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.